Chers auditeurs, bonjour, Marie-France Guimard-Roche est heureuse de vous retrouver. Je vous invite dans mon studio du Rocas pour une nouvelle émission de l'Écho de ma commune, où je reçois aujourd'hui encore Monsieur Alain Fillon, maire de Luret pendant 36 ans et qui vient de prendre, oh non, je déteste ce terme, une retraite bien méritée. Bonjour Alain.
Bonjour Marie-France.
Je suis sûre que te connaissant, tu n'aimes pas non plus ce terme.
Non, disons que j'ai suspendu quelques activités.
Qui étaient quand même très très prenantes.
Tout à fait, oui. Et surtout qu'à un moment donné, j'avais plusieurs activités. Puisque j'ai été maire, j'ai été ensuite vice-président de l'agglomération pendant 17 ans, et puis j'ai fait une apparition le temps d'un mandat au conseil départemental, qu'on appelait à l'époque conseil général.
Le conseil général. Voilà. Pour l'agglomération d'ailleurs en question, pendant 17 ans tu as été dans cette...
structure.
Dans cette structure.
Tout à fait.
Que penses-tu, en fait, non pas de l'agglomération telle qu'elle existe actuellement, 87 communes je crois ?
81.
81, oh, j'en ai 6 de trop. Mmh. Et ça se passe bien, je veux dire, au niveau des municipalités et des, comment l'agglomération est perçue chez les gens ?
Alors, c'est vrai que c'est assez compliqué, d'abord parce que c'est quelque chose qui est difficile à expliquer à travers les compétences. Les gens ne comprennent pas que, autant ils peuvent comprendre que c'est l'agglomération qui a une compétence pour ramasser, collecter les déchets, bien évidemment. Comprennent un peu moins parfois que c'est depuis le 1er janvier 2020. Ce sera 1er janvier 2020, que la communauté d'agglomération a la compétence eau aussi. Là, on commence à dire, c'est plus nous qu'allons gérer forcément le prix du mètre cube d'eau.
L'eau, c'est à travers un syndicat ?
Ça dépend. Ça peut être en régie, c'est la commune qui gère elle-même. Ça peut être un syndicat, effectivement. Il y a des endroits, c'est des syndicats, où là, maintenant, c'est la communauté, c'est les communautés d'agglomération pour le territoire qui nous intéresse.
Et comment ça se passe ? L'argent, il vient d'où ?
Pour une communauté d'agglomération ?
Oui.
Alors, il vient à la fois de l'État, puisqu'il y a des dotations d'État pour les agglomérations. La communauté d'agglomération, d'ailleurs, du Drouet, il y a plusieurs sortes de communautés d'agglomération. Il y a des EPCI, ce qu'on appelle, dans le jargon, les établissements publics de coopération intercommunale, qui sont considérés aujourd'hui, elles sont classées en deux catégories. Les EPCI qui sont pauvres et les EPCI qui sont riches. Et il y a un phénomène d'osmose. C'est-à-dire, il y a un phénomène qui fait que les EPCI les plus riches, si on prend l'exemple des Hauts-de-Seine, par exemple, vont apporter dans la corbeille de la mariée un financement pour compenser, pour aider les collectivités, les EPCI, qui sont moins riches. La communauté d'agglomération bénéficie de ce fonds. Donc, c'est une première ressource. C'est aussi, bien évidemment, de par la compétence du développement économique, l'ancienne taxe professionnelle, qu'on n'appelle plus la taxe professionnelle, je ne vais pas rentrer dans des termes très techniques, mais en tout cas, les entreprises continuent à participer au point de vue de l'impôt au niveau des collectivités. Donc, les communautés d'agglomération, selon leur situation, vivent relativement bien. Notre communauté d'agglomération, même si dans les derniers temps, on a considéré, certains d'ailleurs, ça a été une communication qui n'était pas trop honnête de la part de certains collègues, en disant la communauté d'agglomération du Drouet est au bord du gouffre, tout simplement parce que, souvenez-vous, il y a une décision qui avait été prise il y a 3 ans, et j'avais d'ailleurs voté pour, on avait augmenté de 1%, pas de 1%, on avait augmenté de 1 point la taxe d'habitation, puisqu'il y a une taxe d'habitation qui revient, la communauté d'agglomération perçoit une taxe d'habitation, et on l'avait augmenté de 1%.
Les mairies aussi, non ?
Pardon ?
Les mairies aussi.
Ah non, les mairies faisaient ce que bon leur semblait.
Oui, mais elles touchent également une partie de cette taxe d'habitation.
Ah non, les mairies ont une taxe d'habitation, plus maintenant, puisqu'on est dans la nouvelle loi, qui est la loi Macron. On peut modifier la taxe d'habitation, mais il y a des exonérations pour un certain nombre de contribuables. Donc, la communauté d'agglomération avait augmenté sa taxe d'habitation, et il y a une communication qui était un petit peu perverse, à mon avis, qui consistait à dire, bah oui, s'ils augmentaient les impôts, c'est tout simplement parce qu'il n'y a plus d'argent. Non, la volonté avait été claire, alors probablement mal communiquée. On a tous mal communiqué là-dessus, et notre président, à l'époque, l'a reconnu lui-même. Mais je crois que c'est la faute de tout le monde, en tout cas d'un bureau donné. C'était tout simplement pour se donner plus de moyens en termes d'investissement. Pour se donner plus de moyens, on appelle aujourd'hui en cash flow, en autofinancement, si je puis dire, parce qu'on était quand même un peu court sur des budgets de 56 ou 57 millions d'euros, on ne dégageait que 2 ou 3 millions d'euros. Ce n'est pas suffisant. Moi, je pense qu'il faut privilégier dans toute gestion d'une structure intercommunale ou communale, il faut privilégier l'investissement. Et pour privilégier l'investissement, il n'y a pas 50 manières. Ou bien on lève l'impôt, mais là, aujourd'hui, nos concitoyens, l'impôt, même au niveau les plus hauts sommets de l'État, on considère qu'il ne faut plus augmenter l'impôt.
Que ça suffit, en fait.
Voilà. Et donc, pour pouvoir dégager à travers des efforts, à travers des efforts d'économie... Une meilleure gestion. Je parle pour moi. Je ne parle pas forcément pour la communauté d'agglomération, parce que je pense que la gestion financière a été bien faite. Il y avait vraiment des financiers remarquables. Mais je pense qu'il faut faire des économies, le maximum, pour pouvoir avoir une capacité d'investir la plus importante. Et la capacité d'investir, c'est aujourd'hui, notamment, d'attirer des entreprises. Je crois que là-dessus, moi, j'ai toujours pensé que si on voulait créer du bonheur, il fallait d'abord avoir des entreprises qui puissent dégager des bénéfices, qui puissent payer l'impôt à la collectivité, quelle qu'elle soit, la commune hier, les communautés, les EPCI aujourd'hui, pour que ça puisse être redistribué à travers des équipements, disons, des équipements qui contribuent au bonheur de tous.
L'espace clairé a été financé comment ?
Alors, l'espace clairé, qui est un budget de 2 millions d'euros hors taxes, a été financé à la fois par des aides de l'État, par des aides du département.
Et l'État est généreux, en l'occurrence ?
L'État a été généreux, oui, puisque...
Moyennement généreux.
Oui, je vais dire, sur un investissement comme ça. Mais moi, je crie pas systématiquement après l'État. Vous savez, souvent, les gens qui crient après l'État sont ceux qui... quand la porte est refermée, viennent refrapper à la porte de l'État pour dire « aidez-nous, il faut nous aider ». Mais sitôt qu'on leur parle de l'intervention de l'État, ils ne sont pas d'accord.
J'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en partant.
Voilà. Et donc, à partir de là, donc, l'espace clairé a été financé par des subventions d'État, subventions du département. Et là où je me suis battu, et je le dis, là par contre, vraiment battu, parce que je le disais tout à l'heure, on le disait dans notre conversation précédente, la connotation qu'on a voulu donner à cet espace clairé, en dehors du rassemblement de la population, lieu supplémentaire de rassemblement, c'était la dimension culturelle. Et la dimension culturelle, on pouvait obtenir une subvention de la région centre, dès l'instant où il fallait qu'il y ait cette connotation culturelle. Et nous, c'était dans notre objectif. Mmh. Alors, pas question de rivaliser avec l'atelier à spectacle, avec le Dianetam, c'est pas ça. Le but, nous, pour nous, ça a toujours été, enfin, l'Urésien, enfin, élu, ça a été de dire, eh bien, dans le panel de salles culturelles qu'il y a sur un territoire, aujourd'hui la communauté d'agglomération du Pays de Dreux, il y a des grands espaces comme l'atelier à spectacle, il y a le Dianetum, il y a le théâtre de Dreux, mais l'espace clairé de Vernouillet a toute sa place.
Mais tu sais, je crois qu'en fait, c'est pas du tout... Tu retires rien à personne, ni aucune structure de cette même chose, de cette même valeur. C'est que tout ça s'ajoute... Ça se retranche pas. Et c'est très bien qu'il y ait comme ça un choix très importante de salles de spectacle et de structures qui sont plus ou moins grandes, plus ou moins conviviales d'ailleurs, parce que ça va souvent avec. Mmh. Et c'est très important.
Et la preuve que ça s'est fait vraiment dans l'harmonie et le partage, mmh. on a mis en place, nous, l'aspect culturel de notre salle en collaboration avec le directeur de l'atelier à spectacle d'Alors, oui, c'est ça, qui est venu nous dire, voilà, il faudrait que vous fassiez comme ci, comme ça, on travaillera ensemble, on pourra accueillir, si Luré est d'accord, pendant une semaine, un groupe d'artistes, etc., qui auront un lieu pour pouvoir répéter, pour pouvoir préparer un spectacle, qui présenteront ça. Ça se pratique très facilement dans le milieu culturel, et même à beaucoup plus haut niveau. Donc, participation de l'État, participation du département, participation de la région. Et là, la région a participé d'une manière très importante, puisqu'elle l'a financé à hauteur de 400 000 euros. Donc, c'est là où le rôle du maire est important. C'est là où il faut aller frapper, c'est là où il faut pas ménager son temps ni son énergie dès l'instant.
Il faut savoir à quelle porte frapper aussi.
Oui,
peut-être.
Et dès l'instant où on croit un projet. Et puis, le reste a été financé par de l'autofinancement communal, l'autofinancement qu'il faut dégager. Mm-hmm. Et puis, bien sûr, on a fait un emprunt. C'était un emprunt, de toute façon, on ne l'aurait pas fait sans emprunt, même si on aurait pu le financer par autofinancement, parce qu'aujourd'hui, on avait emprunté de l'argent à 1%, donc c'est quelque chose
d'intéressant. Il ne faut pas s'en priver, quoi.
Tout à fait.
Bien sûr.
Voilà.
Alors, on va passer à un autre sujet complètement différent, mais hélas, beaucoup, c'est un sujet d'actualité, qui est le Covid. Malheureusement, on ne peut pas passer outre ce sujet. Et tu es tout à fait habilité à nous en parler parce que tu as traversé cette épreuve victorieusement, oui. Ce qui nous donne quand même beaucoup d'espoir à tous. Je te retrouve aujourd'hui en pleine forme, avec un grand sourire et tu sembles avoir derrière toi seulement tous les papillons noirs qu'il y avait, et tu vas bien.
Oui, je vais très bien. D'ailleurs, ça a été à l'époque qu'une suspicion, puisque je ne montrais pas tous les symptômes, à part celui de la fièvre, mais je n'avais pas d'autres symptômes importants.
Mais ça a quand même été une épreuve.
C'était une épreuve d'une quinzaine de jours qui a commencé le lendemain des élections municipales.
Ah, c'est peut-être pour ça d'ailleurs.
Oui, je sais pas, non. Et puis voilà, bon, à un moment donné, malgré tout, le paracétamol n'arrive pas à tout faire. À un moment donné, je me suis un petit peu inquiété. Bon, une amie responsable du SAMU de l'hôpital que j'ai été rencontrer, qui je rends hommage, et en même temps, j'en profite parce que j'ai pu voir aussi comment, à cette époque-là, fonctionnaient les équipes de soins, etc. Bon, je ne vais pas en rajouter, tout a été déjà dit sur...
Oui, mais c'est déjà tout autre chose quand on l'a soi-même vécu et expérimenté. C'est complètement différent. C'est pour ça que je t'interroge là-dessus.
Tout à fait, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je crois qu'il ne faut absolument pas négliger toutes les préconisations sanitaires. Hein. Il faut que ce soit le masque. Moi, j'ai du mal aujourd'hui à entendre un certain nombre de polémiques qui me désolent un petit peu. Je considère que chacun a le droit d'émettre un avis, d'avoir une opinion, voilà. Mais je comprends mal qu'on puisse aujourd'hui déposer en justice des plaintes contre X, Y, parce qu'on nous prive de liberté en portant le masque, etc.
Les mêmes qui, au mois de mars, je suppose, râlaient parce qu'il n'y en avait pas.
Probablement, je ne sais pas. En tout cas, bon, c'est des moments qui sont très compliqués. C'est vrai qu'on se rend un petit peu mieux compte. On fait une analyse dans les temps de paix où on est tout seul. On se dit bon, je serai plus du tout comme avant. Quand je dis je suis plus du tout comme avant, moi j'ai pas été comme j'ai des amis qui ont été pendant 25 jours à l'hôpital Pasteur en service réanimation. Ceux-là reviennent de très loin, je pense à un ami.
Puis reviennent doucement, j'imagine.
Ouais, parce très que doucement, qu'on de la rééducation très compliquée, etc. Bon, on n'était pas là, mais on relativise les choses un peu comme toujours dans les moments de gravité, quel que soit le caractère de gravité, quel que soit le sujet. À un moment donné, on se dit « je suis toujours en vie ». Et ben voilà, on ne donne pas la même importance aux choses simples de la vie.
Relativise, quoi.
On relativise, c'est le mot.
Bien sûr.
Simplement.
Et je voudrais aussi te parler, la dernière fois que nous nous sommes vus, c'était en prévision de cette semaine du souvenir. Et je crois savoir que ça a été un véritable succès. Malheureusement, je n'ai pas pu assister parce que je n'étais pas là, je n'étais pas à Dreux, mais j'en ai entendu parler naturellement. Alors, il y a eu beaucoup de manifestations pendant cette semaine-là.
Oui, c'était une dynamique.
Le bouquet final de ton mandat.
Oui, j'en suis fier, mais je n'ai pas là, évidemment, seule la responsabilité. Beaucoup de gens ont travaillé autour de ce projet, et notamment, je le dis à l'aise, Marlène, ma fille, a beaucoup donné. Et aujourd'hui, aujourd'hui, pendant mes congés, j'ai eu des appels téléphoniques de gens du mémorial de la Shoah ou d'autres gens de l'extérieur qui ont dit « Mais comment vous avez fait pour faire ce genre de manifestation qu'on n'arrive pas à mettre en place forcément dans les grandes villes ?» Et donc, il y a eu une volonté très grande. C'est parti de quelque chose de... ça a été un engrenage. Au départ, on inaugurait 4 nouvelles rues d'un lotissement. Voilà, pas plus aussi banal que cela, comme c'est arrivé souvent pendant 36 ans à Luret, d'inaugurer des nouvelles rues. Et puis on s'est aperçu à un moment donné que ces nouvelles rues, il fallait leur donner des noms. Il y a un nom qui est revenu systématiquement, qui était le nom donc d'une femme qui était une des premières martyrs de la guerre 39-45 dans notre région, Jean Moulin. En tout cas, c'est pas moi qui le dis, c'est Jean Moulin dans un livre, en disant le premier acte de résistance en Eure-et-Loire, c'est pas forcément le sien qui était un acte de résistance, mais c'était celui de Léontine Pauget, qui dès le 17 juin 1940 a été fusillée dans sa maison parce qu'elle a refusé de servir les Allemands, de les héberger, de leur donner à manger, tout simplement parce qu'elle avait un fils qui était mort à la guerre 14-18 et qui avait un autre fils. Ce fils-là était en photo dans la maison et les Allemands lui ont demandé de décrocher le cadre. Elle n'a pas voulu, elle a refusé, elle a dit « et je ne vous donnerai pas à manger ». Donc toujours est-il, c'est parti de cela. Ensuite, il a fallu donner 3 noms. On a ouvert à la population. La population a émis des noms,
etc. Elle s'y est intéressée tout de suite, naturellement.
Voilà, le conseil municipal aussi. Et puis, voilà, on a donné des noms. Alors, il y avait 2 pilotes canadiens qui ont été abattus sur Luret en 1945. Et puis...
Tu as leur nom ou
Oui, Conway. Et puis l'autre, c'est Haile. Et donc, ils ont été tous les deux abattus en juin 1944. Et puis le quatrième nom, eh bien, c'est une dame, une femme du conseil municipal qui a proposé Anne Frank. Et donc, et à un moment donné, on s'est dit, mais ces 4 noms-là ont un point commun, c'est la Seconde Guerre mondiale. Et à partir de là, on est parti sur la semaine du souvenir. Alors, Léontine Pauget, les soldats canadiens, l'ambassade du Canada, Anne Frank, le mémorial de la Shoah. Marlène a fait venir une très belle exposition, très très belle exposition, sur Anne Frank. On a fait venir une exposition d'Amsterdam avec l'historienne qui avait monté cette exposition.
Qui ne tourne d'ailleurs pas beaucoup en France, cette exposition. C'est ça qui est étrange.
Alors nous, elle venait de Limoges et elle s'en allait après Luret. Je crois qu'elle allait à Brest, je crois. Enfin bon. Et donc, à partir de là, on a établi un programme, par le biais de Marlène, de ma fille, évidemment un programme scolaire, en dehors, au-delà de Luret, des écoles de Dreux et d'ailleurs. Et il y a eu un véritable, j'allais dire, engouement. Les gens sont venus. L'exposition était vraiment très belle. Elle a été bien commentée. Et puis, c'était un effort aussi, quand je dis commander.
J'imagine. Oui, bien sûr.
Il y a un aspect matériel dans l'affaire. La commune de Luret a déboursé un petit peu d'argent. Mais ça a été une volonté. Ça a été une volonté politique, c'est-à-dire dans le choix d'un moment de gestion, si je puis dire. Et donc, voilà, les gens sont venus au point que ça n'a pas été une semaine, ça n'a pas été 15 jours, ça a été 3 semaines. Voilà, et beaucoup de groupes sont venus, beaucoup de gens ont vu cette exposition. On a eu des témoignages poignants de rescapés des camps.
Des souvenirs, bien sûr. Et c'est toujours très émouvant parce que toute la population se sent concernée.
Tout à fait.
Par tous ces événements qui ont eu lieu à Luret ou tout à côté.
Et je ne pensais pas que... Bon, voilà, c'est, d'autant que c'est des faits, on les connaît, ils sont... Mais ça a été quand même... Et puis, ça a été une aventure humaine, parce que l'exposition Anne Frank, pour qu'elle puisse rester 3 semaines dans un petit village comme Luret, on ne pouvait pas avoir qu'une seule personne qui tienne la barre pendant toutes ces journées-là. Alors, il a été monté, il y a un groupe qui s'est constitué, dont j'ai fait partie. On était une douzaine de personnes et on a eu une formation sur un week-end pour présenter...
le séminaire, carrément.
Voilà, le séminaire à Luret pour présenter l'exposition Anne Frank. Et là, on a découvert des gens... Moi, j'ai trouvé dans ma commune, j'ai découvert des gens, je me disais, mais ils s'intéressent, en fait. Et non seulement ils s'intéressent à l'exposition, mais ils veulent la présenter. Et chacun avec ses moyens. On a eu des gens qui sont venus, qui ont participé au séminaire, mm-hmm. qui avaient une aisance relative pour présenter, et d'autres qui n'avaient pas l'expérience de l'expression orale et qui ont fait des efforts, qui ont redoublé d'efforts pour arriver
sûr.
À quelque chose de bien. D'ailleurs, ce groupe-là est toujours... Il vit toujours.
Ça, c'est très sympathique. Moi, mon expérience d'Anne Frank, c'est un petit peu... C'est très vieux. Je devais avoir 10 ans et j'en ai beaucoup plus aujourd'hui. Et je suis allée voir le film où c'était Audrey Hepburn qui incarnait Anne Frank. Mmh. Et je me souviens très bien de ce film qui était très bien fait, en noir et blanc, bien entendu. Mais je la connaissais peu. Enfin, je veux dire, à l'époque, c'était tout à fait une héroïne presque mal connue. Mais je pense que tous les enfants qui, comme moi, ont vu ce film ont été vraiment très émus de ça. Et bien des années, bien des décennies après, je m'en souviens encore. Je la revois encore, découvrant l'amour. Alors ça, c'était certainement un romancé avec celui qui partageait, un jeune homme qui partageait leur captivité. Et ils étaient tous les deux dans le grenier. Elle avait ouvert un peu un petit tu sais, les trucs sur le toit,
un
petit vasistas, et il y avait la neige qui tombait sur son visage. J'ai trouvé que c'était extraordinaire. C'est vrai que... Et vraiment, c'est une personne très, très particulière, parce qu'elle est morte très jeune. Alors, pour qu'elle ait comme ça une aura si particulière, il fallait que ce soit qu'elle rayonne, qu'elle soit très...
Oui, et puis ça a été un moment aussi, cette période où elle est restée donc confinée, si je puis dire.
Ah, super confinée.
Ça a été la découverte de sa personnalité et de son adolescence.
Et oui, naturellement.
De son adolescence.
Et de se dire que même des enfants étaient en butte à cette horreur.
Oui.
C'est certain. Eh bien, écoute, au moins, ça, c'était une très bonne...
Oui, ça a été un moment très fort. Et puis, c'était un des moments, j'allais dire, de manifestation dans la commune qui a été assez, assez intense.
Alain, j'espère que nous nous reverrons à la radio. En dehors, bien entendu, nous nous reverrons. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que de toute façon, après tout ce que tu as vécu et tout ce que tu as fait pour cette commune du Luaclairé, j'insiste, ça ne s'arrête pas là. Les gens vont continuer à te rencontrer, à te croiser dans la rue, à te reconnaître.
Bien sûr, parce que...
Certains t'appelleront toujours Monsieur le maire.
Pour beaucoup, de moins en moins. De moins en moins, mais beaucoup ne m'appellent pas Monsieur le maire. Ils ne m'ont jamais appelé Monsieur le maire, ils m'ont appelé Alain.
Oui, ça, ce sont ceux qui t'ont
connu en culotte courte. Pour ceux qui m'ont vu naître. Non, ça ne s'arrêtera pas. Ça ne s'arrêtera pas tout de suite. D'ailleurs, dans la mesure où, dans mes projets, j'avais commencé... d'une manière très modeste, parce que mon grand-père, qui avait été maire de Luret jusqu'en 1949, que j'ai très peu connu, puisque j'avais 6 mois quand il est décédé...
Donc il a été là pendant toute la guerre.
Non,
il a
une partie de la guerre,
de la
parce qu'au départ, il avait été interdit. Le gouvernement l'avait évincé, et puis, à travers des élections qui ont eu lieu, il est à nouveau maire. Et tout simplement, il avait fait pas mal pour à la fois la résistance, etc. Il y avait des choses, des témoignages, il y avait des documents. C'est l'histoire de Luret, Virginie, USA. Ce soldat américain qui, le 15 août, arrive dans Luret, arrive d'ailleurs pas loin d'où j'habite actuellement, et qui dit mais moi, je viens de l'État de Virginie, et à côté de chez moi, il y a un village qui s'appelle Luret. Et quand il rentre chez lui aux États-Unis, il raconte son histoire, et un des industriels de la commune où il était, qui s'appelait Monsieur Blot, et qui était un entrepreneur, enfin un industriel qui fabriquait des chaussures. Il a inondé, tout de suite après la guerre, la commune de Luret par des chaussures. Les Lurésiens qui avaient manqué de beaucoup de choses n'ont pas manqué de chaussures pendant des années et des années, parce qu'il avait beaucoup de... Bon, il a fourni beaucoup de chaussures gracieusement.
Vous êtes jumelé avec Luret, j'imagine.
Et on ne s'est pas jumelé, c'est parce que la ville de Luret aux États-Unis est une ville grande comme Dreux, réputée sur le plan de tous les États-Unis par ses cavernes. On vient de tous les États-Unis pour aller visiter les cavernes de Luré. Il y a d'ailleurs des amis des Lurésiens, dont d'ailleurs le maire actuel de Luré, qui avait fait le déplacement à Luré, Virginie, et disait que vraiment les cavernes, c'est quelque chose de grandiose. Non, tout simplement pour dire que ça ne s'arrêtera pas là, bien sûr, d'abord parce que je continue à habiter Luré et j'y resterai, mais parce que j'avais d'une manière très modeste voulu regrouper des documents qu'il y avait en mairie, que je possédais, que j'avais obtenu aux archives départementales. Mmh. J'ai voulu, parce qu'il n'existait pas de document sur l'histoire de Luré. Donc j'ai dit, je vais faire un document très, sans aucune prétention, mais il faut que depuis...
Un livre ?
Oui, j'ai fait un polycopier. On va l'appeler polycopier. Mais quand même...
Que tu vas publier.
Ah ben c'est fait, il est publié. Je l'ai publié il y a une dizaine d'années. Et donc, au moins, je suis sûr que cette base-là, c'est le noyau dur de l'histoire de Luré. Maintenant, cette histoire de Luré, il faut l'affiner à travers de documents que j'ai récupérés. Parce que quand ce livre a été un petit peu ventilé, etc., beaucoup de gens m'ont dit « Attends, moi, je possède telle chose. Tiens, je te
la
donne. »
Ça, c'est très sympathique.
Donc,
c'est vraiment très
sympathique. Il faut que je refasse d'une manière différente l'histoire de Luré, mais de l'agrémenter d'un certain nombre de précisions.
Et c'est-tu quoi ? Tu vas avoir le temps, Alain ?
Justement. J'aurai le temps, j'espère que j'aurai le temps.
Un vrai bouquin en librairie et
voilà,
tout. Hein,
voilà.
En tout cas, merci infiniment d'être venu dans nos studios.
Je vais être bavard jusqu'au bout, Marie-France.
Mais je t'en prie, alors,
je vais être bavard jusqu'au bout. Je voudrais
sûr.
En profiter. J'ai bien entendu que ce ne serait pas forcément la dernière émission ou le plaisir que vous puissiez m'accueillir à Radio Grand Ciel. Mais je voulais vous dire, en tant que venant de juste de déposer mon écharpe de maire, vous dire que, et pas par flagornerie, ni par volonté de faire plaisir systématiquement, parce que je le ressens. Je voulais vous remercier. Je voulais remercier Radio Grand Ciel, remercier toutes les équipes qui t'ont précédé, te remercier, Marie-France en particulier, parce que j'ai toujours beaucoup de plaisir à venir à Radio Grand Ciel. Je le dis clairement.
Mais j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à te recevoir.
Parce que l'accueil était toujours chaleureux, je m'y trouvais bien. Pas le fait de... Voilà, de m'exprimer, de parler de telle chose, d'essayer de briller pour telle ou telle raison, telle ou telle réalisation, mais parce que c'est agréable de venir chez vous, si je puis dire. Et en tout cas, c'était aussi un des moyens de mieux faire connaître à travers les échos de ma commune. Alors vraiment, je tiens à le dire personnellement, mais aussi au nom de toutes les équipes municipales qui ont travaillé avec moi. Merci Radio Grand Ciel de m'avoir de temps en temps, parfois même assez souvent, invité à venir parler de ma commune.
Merci beaucoup, monsieur le maire, parce que pour moi aussi, ça a été un véritable bonheur. J'ai été absolument ravie de te recevoir. Et il y a une chose qui... Je t'ai dit des choses la semaine dernière sur une autre émission, mais c'est vrai que ce que j'ai toujours apprécié, c'est qu'à chaque fois que je t'ai appelé, tu es venu, mais alors je dirais instantanément. Tu as toujours trouvé un moyen pour venir. Et ça, c'était vraiment très agréable. Merci infiniment. Ça a été très, très, très productif toutes ces années passées ensemble. Et il y en aura bien d'autres, je l'espère, en tout cas. Alain, merci. Chers auditeurs, je vous quitte maintenant, un peu ému malgré tout. Et voilà, je vous retrouverai pour une autre émission de l'Écho de ma commune. Pierre Écart enregistrait, comme souvent, ses émissions Écho de ma commune et les réalisera. Et gommera toutes les imperfections qu'il y a parce que nous ne sommes pas... Je ne suis pas Anne Sinclair, voyez-vous. Et à bientôt sur les ondes de Radio Grand Ciel, votre radio favorite, je le sais. Au revoir.